Est-ce que ça va ce matin? Pas bien, moins bien, assez bien, bien ou bien très bien? Ah, il y a un peu de tout là. Mais recommande ton sort à l'Éternel ce matin, il est là pour toi. Que celui qui ne va pas bien, Dieu est là pour l'écouter, qu'il s'ouvre à lui. Et celui qui va bien aussi ou très bien, qui glorifie aussi le Seigneur et qui prie aussi pour celui qui ne va pas bien qui est à côté. Et surtout, soyons dans la joie lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel. Amen. S'agissant de cette joie, il y a quand un enfant arrive dans la famille, quand il y a un nouveau-né, c'est la joie. Les parents sont dans la joie. Les frères, les sœurs, la famille, les proches, tout le monde est dans la joie. Mais qu'est-ce qui se passe après, quand ce petit est né, qu'il est là, il doit subir tout un tas des examens pour voir s'il est en bonne santé. Amen. Pour voir s'il est vraiment en bonne santé. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Il doit être nourri. Et si cela ne se fait pas, le N de nourrir va se transformer en M. Donc après quelques temps, si ce nouveau-né n'est pas nourri, il va mourir. Ça peut prendre des heures et puis un ou deux jours. Donc le N va se transformer en M. Pour dire que la non-alimentation d'un enfant est un danger pour sa croissance, pour sa santé, pour son développement. Et nous pouvons le constater aussi, quand un enfant, quand un nouveau-né a faim, tu peux chanter toutes sortes de chansons, mais si c'est son heure de manger, c'est ça ou rien. Donc il a besoin de ça pour prendre des forces, pour grandir. Tout comme nous aussi, nous avons besoin aussi de manger, pour prendre des forces. Et nous pouvons le voir quand une personne est malade, hospitalisée, et qui n'arrive pas à se nourrir tout seul, eh bien il est alimenté par la perfusion, pour pouvoir avoir la force, pour pouvoir vivre, pour pouvoir continuer. Et nous pouvons aussi les remarquer que il y a certaines personnes qui sont de mauvaise humeur s'ils n'ont pas pris un café le matin. Ou une personne une personne ne sourit pas une fois qu'il a mangé. Après, il commence à sourire. Une fois qu'il a le ventre plein, on connaît des cas comme ça. Amen. Et ça peut t'arriver aussi un matin que tu te retrouves devant le miroir chez toi. Tout à coup, tu vois peut-être 2-3 boutons sur tes lèvres. Tu vas te demander, mais est-ce que c'est des boutons de fièvre? Est-ce que c'est une allergie? Est-ce que j'ai été piqué? Donc, on va se poser tout un tas de questions par rapport à notre santé. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est malade? On va voir le médecin. Et quand on n'est pas malade, on va quand même voir le médecin. Donc on nous dit qu'il faut faire des tests annuels pour s'assurer qu'on est en bonne santé, même si on n'a rien du tout, même si rien ne se manifeste au travers de nous, on va quand même voir un médecin. Et la question que moi je voulais nous poser ce matin, on s'occupe beaucoup de notre santé physique et tout ça. Mais quel est l'état de notre santé spirituelle? Ce matin, quel est l'état de notre santé spirituelle? Nous savons tous que l'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Corps, c'est cette enveloppe, ce corps qu'on prend vraiment soin chaque fois. L'âme, c'est le siège des désirs, des émotions, des sentiments, des affections, tout cela. Et puis l'esprit, c'est ce côté qu'on est en contact avec Dieu. C'est ce côté qui nous met en contact avec Dieu. C'est ce côté qu'on communique avec Dieu, l'esprit. Parce que la parole dit que Dieu est esprit. Et il faudrait que tous ceux qui le louent en esprit et en vérité. Et pour illustrer cela, j'avais juste une petite lecture dans le livre de dans le livre de Matthieu. Donc de temps en temps, on est appelé à s'arrêter et voir qu'est-ce qui vient à la suite. De s'arrêter et de se poser quelques questions de base en tant que chrétien. Matthieu 16, 13 à 17. Je vais lire. Quand Jésus est arrivé dans les territoires de César et de Philippe, il demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dur des hommes ?» Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Nous le voyons, Jésus, qui avançait avec ses disciples, tout à coup il s'est arrêté, mais il dit, « Qui suis-je pour vous ?» Et seul Simon-Pierre a pu lui répondre. Et Jésus l'a dit, « C'est Dieu qui l'a révélé cela. » Parce que je peux dire que la santé spirituel de Simon-Pierre était en ordre, était correct. Et Dieu a pu le révéler au travers de son esprit. C'est l'esprit, au travers de l'esprit. Donc deux fois, c'est important de s'arrêter, de se poser vraiment les questions. Où est-ce qu'on est ? Et ce matin, la question est quel est l'état de ma santé spirituelle à moi ? Quel est l'état de ma santé spirituelle? Avant que je peux avancer, mais une fois je m'arrête, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et pour cela, il y a trois éléments que je partagerai ce matin. Il y en a beaucoup, mais j'ai choisi trois ce matin. Le premier élément, c'est, on peut le lire dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 2, à partir du verset 15. 1 Jean 2, à partir du verset 15. Quel est l'état de ma santé spirituelle? Le premier élément, c'est l'amour envers Dieu. L'amour envers Dieu. Et 1 Jean 2, 15-17 nous dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 15 à 17. Ça commence par « N'aimez point le monde ». Ici, il est question de l'attachement aux choses de ce monde. Et comment peut-on définir monde? On peut définir monde comme tout ce qui est sans Dieu, tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui est opposé à Dieu. Parce que lorsque nous commençons à aimer le monde, Dieu perd automatiquement sa place, ça veut dire la première place, au détriment des choses qui sont dans le monde. Et nous l'avons lu, quelles sont ces choses qui sont dans le monde? C'est les convoitises, l'orgueil et tout ça. Il y a aussi un autre verset dans le livre de Jean 14, 30 qui dit « Le diable, appelé également le prince de ce monde, se sert du monde et de ses compassions pour séduire un grand nombre de chrétiens. » Et l'apôtre Jacques dit aussi que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et celui qui veut être ami de Dieu se rend ennemi de Dieu. Ami du monde se rend ennemi du monde. Non, celui qui veut être ami de Dieu se rend ennemi de Dieu. J'y arriverai. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voilà. Je suis arrivé. Donc, Jésus a été confronté à la séduction, mais il n'a pas cédé. Il a pu dire non. On s'imagine, on se souvient lorsque le diable lui proposait son adoration en contre la royauté de la terre. Jésus a pu dire non à cela. Amen. Ça, c'était juste un mot sur la convoitise, sur le monde. Et puis la convoitise s'est définie comme un désir immodéré de possession, envie de satisfaire ses passions charnelles, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Autrement dit, l'amour des objets de la création ou de soi-même plus que du Dieu créateur. Ça, c'est ce que la convoitise nous dit. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans ce monde ? Là, on parle de la convoitise des yeux. Il s'agit bien des yeux. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on regarde à longueur de journée ? Qu'est-ce que nos yeux regardent ? Les yeux sont attirés souvent par ce qui brille, par la beauté extérieure, les apparences du monde plutôt que de la vérité. Ça, c'est l'attirance que nous avons par rapport aux yeux. Et puis, la vue peut influencer aussi, nous influencer et nous amener à trébucher, à nous conduire dans le péché, disons-le. Tu peux voir quelque chose, tout à coup, ça commence à t'amener dans des imaginations, dans des pensées, et puis tu sors carrément de ce qui pleurait à Dieu. L'autre jour, j'étais devant la télé, l'après-midi, tout à coup, je regarde comme ça, interdit au moins de 12 ans. Je me dis, mais dans les après-midi, qui sont devant le poste de télé, c'est les enfants. Et mes écrivains, interdits au moins de 12 ans. Je me souviens quand nous, on grandissait, les choses interdites venaient le soir, hein, même très soir, à la télé. Mais maintenant, tout est balancé comme ça, même dans la journée. Alors, parents, faites attention à ce que regardent vos enfants. Il y a aussi le phénomène Internet, où on trouve tout. Et si on ne discipline pas nos yeux, ça peut nous amener loin. À nos postes de travail, il y a des différents magazines, des revues. Qu'est-ce que nos yeux regardent ? Faisons donc attention à cela. Parce que ce qu'on regarde peut corrompre notre âme et ainsi infecter notre esprit. Et une fois que notre esprit est infecté, il n'y a plus de contact avec le Seigneur. Il n'y a plus de contact avec Dieu. Donc faisons vraiment attention à ce qu'on regarde, pas que ça nous amène à ces niveaux-là. Et si notre esprit est infecté, c'est terrible. Je me souviens, il y a 4 ans, mon épouse était hospitalisée, et puis les examens ont révélé que le taux d'infection ne faisait que monter avant qu'il trouve vraiment le bon remède. Je peux vous dire que c'est une situation vraiment inconfortable. Et dans ce cas-là, avec le Seigneur, il n'y aura plus de relation, il n'y a plus rien. Tu auras beau prier, mais il ne se passera rien parce que cette relation est brisée avec le Seigneur. Amen. Nous pouvons juste le voir dans la Bible, dans le livre de Genèse 3, 6. Je lis au nom du Seigneur. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Pour bien comprendre, si nous revenons un peu en arrière, lorsque Dieu créa tout, après il crée l'homme, il le met au centre du jardin pour le cultiver. Après, il a donné un ordre de ne pas toucher à l'arbre du bien et du mal. Et après, on sait l'histoire, le serpent s'est amené pour séduire, patati patata, et puis on sait ce qui s'est passé. Voilà. Ce qui suit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Il y a un proverbe même dans le monde qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. Donc attention à ce que nos yeux voient, que le Seigneur nous donne vraiment un discernement, que le Saint-Esprit puisse vraiment travailler en nous, que nous puissions regarder des choses qui plaisent à Dieu. Et nous pouvons contrôler cela. La convoitise des yeux est condamnable par la loi divine. Si on regarde dans le livre d'Exode 27, la parole de Dieu dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune autre chose qui appartient à ton prochain. » Donc nos yeux convoitent tout le temps des choses. Et c'est tellement facile de se détourner de Dieu. Mais quant à nous d'être forts, de demander la grâce de Dieu. Et il y a un verset qui répond à cela, qui dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Guéhenne. Donc il vaut mieux détourner son regard de ce qui peut engendrer le péché en nous. Et nous sommes appelés vraiment à apprendre à discipliner nos yeux. Il n'y a pas d'autre mot. Et nous avons besoin pour cela de l'Esprit de Dieu pour nous aider. Actuellement, la semaine dernière, je pense, il y a eu la Coupe du Monde féminin en France, là. Et actuellement, il y a même la CAN en Afrique. Mais je peux dire qu'il y a certaines personnes, quand c'est le temps des tirs au but, ils ne veulent pas regarder. Hein, parce qu'ils vont se sentir tellement mal, ils risquent de se mettre dans des états. Donc il y a d'autres personnes qui ne veulent carrément pas regarder. Ils veulent qu'on leur dise après, ou quand les pénalties commencent, ils vont faire autre chose. Parce que quand ils sont là, ils regardent, ça ne va pas leur faire du bien. Amen. Donc, qu'est-ce que nos yeux regardent à longueur de journée? À cela, on peut aussi rajouter, qu'est-ce que nos oreilles entendent à longueur de journée? Ou qu'est-ce que nos bouches racontent à longueur de journée? Que notre Seigneur puisse vraiment nous faire grâce, que tout ce qu'on va entendre, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va écouter, tout ce qu'on va regarder, puisse vraiment lui plaire. Ça, c'était le premier point, un petit sous-point, dans le premier point qui était l'amour envers Dieu. Et si on continue de lire, toujours dans le 1 Jean 2, qu'est-ce qui suit après? Il parle de la convoitise de la chair. La convoitise de la chair se définit par le désordre et l'exagération dans la satisfaction des pulsions naturelles. Dans le jardin d'Éden, Ève vit que le fruit défendu était bon à manger. Donc une fois devant ce fruit, Ève s'imaginait déjà le bien que ce fruit va lui faire pour satisfaire la chair, pour satisfaire le corps. C'est comme quand tu vois, tu aimes une marque de chocolat et que tu le vois. Tu commences déjà à t'imaginer le bien que ça va se faire sur ta langue quand tu vas le croquer. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, Satan embellit les choses interdites par Dieu pour nous pousser à pécher, pour nous faire tomber, pour nous ruiner. Et pour cela, nous avons aussi besoin d'une certaine discipline. Et la Bible nous enseigne que l'affection de la chair et inimitié contre Dieu, et produit la mort. Nous pouvons le lire dans le Romains 8, 5 à 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Moi, j'aimerais la vie, j'aimerais pas l'amour. Et si je suis en vie, c'est que j'ai une mission à accomplir. Et pourquoi je veux me laisser faire par les convoitises de la chair? pour m'éloigner du Seigneur. Pourtant, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et nous pouvons dire aussi que la loi, la chair renferme des mauvais désirs qu'on trouve dans le Galates 5, 19 à 21. Ça, nous pouvons lire à la maison. Il y a beaucoup de choses qui sont citées là. Mais nous sommes appelés à crucifier cette chair-là et toutes ces passions pour pouvoir faire la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit que nous sommes de passage sur ce monde. Nous sommes comme des étrangers. Et pour ce peu de temps que nous passons, nous pouvons nous abstenir des convoitises de la chair. Parce qu'il fait tout le temps la guerre à notre âme. Donc nous pouvons nous en passer. Et pour encourager ceux qui n'arrivent pas, il y a encore un verset dans Romains 13, 14. Le Seigneur dit, enfin la parole de Dieu nous dit, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Je me souviens quand on était encore jeune. Maintenant, je suis un pré-retraité, donc... Quand on était jeune et qu'on avait des beaux habits, des chaussures, pour se faire voir, la démarche changeait. Hein. On pouvait changer notre façon de marcher. Tout ça pour nous satisfaire nous-mêmes, parce que tu as mis un beau costume ou quoi que ce soit. On pouvait mettre la musique forte dans la voiture pour nous faire voir, pour satisfaire la chair. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel est que nous puissions, même si on fait tout un tas de choses, mais que Dieu puisse rester à la première place. Pas nous laisser avoir par des pulsions charnelles à gauche ou à droite. Tout ça, c'est rien. Ça passera, comme nous venons de dire, la convoitise passera et tout ce qui suit avec. Amen. Et il y a encore un dernier point qui parlait de l'orgueil. L'orgueil de la vie. L'orgueil s'est défini comme une opinion très exagérée que l'on a de sa valeur personnelle au dépens de la considération due à Dieu et à autrui. C'est le refus de dépendre de Dieu et de se soumettre à lui. Il constitue la racine et l'essence même du péché. L'orgueil. On peut comparer l'orgueil aussi à l'arrogance. C'est quand on ignore l'autre, on se voit supérieur à l'autre. On fait comme si on ne voyait pas l'autre. Et l'orgueil a toujours été le fondement de la rébellion contre la puissance de Dieu. Vous pouvez le voir qu'il a pénétré à Adam et Ève quand le serpent leur a dit que vous pouvez être des égaux des dieux. Vous pouvez être des petits dieux. Ou comme la parole de Dieu dit, vous serez comme des dieux. L'orgueil séduit le cœur, endurcit l'esprit, excite des querelles et précède la chute et la ruine. Bon, ça, je pense qu'on sait déjà. Ici, il n'y a pas des orgueilleux. Amen. Et toute personne orgueilleuse offense Dieu. Mais cela n'existe pas entre enfants de Dieu. Donc, ça ne nous concerne pas. Amen. Ça c'était le premier point. L'amour envers notre Dieu. Le deuxième point, c'est garder ses commandements. Tous ces points, une fois qu'on aura fait le tour, on pourra examiner et voir quel est l'état de ma santé spirituelle. Est-ce que j'ai l'amour envers Dieu? Est-ce que je garde ses commandements? Et pour ce deuxième point, on va lire toujours dans le livre de 1 Jean 2, 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Et celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne le garde pas, ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Gardez ce commandement veut tout simplement dire obéir. Il parle de l'obéissance. Tout service chrétien authentique se repose sur l'obéissance. Si on n'obéit pas, on se trompe nous-mêmes. Parce que Dieu voit tout. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il voit tout. Il sonde les reins, le cœur. Il connaît même le nombre de nos cheveux. Donc, il est question ici de renoncer à tout et de se laisser conduire par lui à bon port. C'est difficile, mais c'est possible. Car Dieu ne peut pas nous demander l'impossible. Donc, renoncer à tout et le suivre, l'obéir, et on y arrivera. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas dire non à l'avance. Donc, prends ce risque-là, et c'est la parole de Dieu. Notre bien-aimé a parlé de la foi avant. Si tu as la foi en cette parole, tu arriveras. Et comment peut-on y arriver? Au travers de la pratique de sa parole. Quand tu pratiques sa parole, tu arriveras. On se nourrit bien tous les jours. Hein? Amen. Alors, nous pouvons aussi nous nourrir tous les jours de cette parole. On s'occupe bien de notre corps, mais notre partie spirituelle. L'homme n'est pas que corps, il est corps, âme et esprit. Donc nous sommes appelés aussi à nous occuper de cette partie de notre corps spirituel en le nourrissant tous les jours. Ça va nous donner la force, ça va nous donner la joie, ça va nous donner la paix. Et lorsque nous serons dans des situations difficiles, nous aurons toujours la force pour riposter, pour résister. Parce qu'en ce moment-là, Dieu sera avec nous, au travers de sa parole. Il y a juste un verset qui, dans 2 Timothée 3, 16 à 17, qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner. Cette parole va nous enseigner. Parce que dans Osée, la parole de Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Eh bien, si cette parole, on s'accroche à cette parole, elle va nous enseigner et l'ignorance sera loin. On sera plus des ignorants. Nous enseigner et pour nous convaincre. Cette parole va nous convaincre du péché. On n'aura pas des négociations avec le diable. Donc péché, c'est péché. Donc non, c'est non, oui, c'est oui. Cette parole va nous corriger. Il va corriger nos habitudes. Si on n'était que des chrétiens de dimanche, en s'approvisionnant de cette parole, nous serons les chrétiens de tous les jours. Là, partout où nous serons. Si on lisait peut-être la parole de Dieu que le dimanche ou le jour qu'on a des cellules, on commencera à la lire tous les jours. Tout ça par l'Esprit de Dieu qui aura agi en nous. Mais il faut le vouloir, bien sûr. Et puis cette parole est là aussi pour nous instruire dans la justice. Dans la justice. Ça, c'était le deuxième point. Et il y a le dernier point. C'est la haine du péché. Et nous le voyons toujours dans 1 Jean 3, 4 à 6. La parole de Dieu nous dit, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparaît pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » On ne va pas décrire ce que c'est le péché, mais on sait tous que le péché est un obstacle majeur qui nous empêche d'être en paix avec nous-mêmes et avec Dieu. On nous parle de quiconque transgresse la loi. Cette loi, c'est celle qui vient de l'autorité suprême, ça veut dire Dieu. Et celui qui marche en dehors de cette loi pêche. Il n'y a pas photo. Tu aimes le Seigneur, tu es converti. Tu ne marches pas selon cette loi. Tu pêches. Mais ne restons pas là. Répentons-nous et revenons vers notre Seigneur. C'est un Dieu qui est toujours bon. Il est toujours là pour nous soutenir, pour nous aider. Il y a toujours sa main qui est tendue. C'est à nous aussi de s'accrocher à cette main-là. Ne restons pas dans le péché. C'est comme... on se souvient de l'histoire d'un athlète là, qui courait, qui faisait le tour du terrain, et chaque fois il tombait, il se relevait, il continuait, il tombait, il y avait des obstacles. L'obstacle de haie, je pense. Et les autres étaient vraiment très loin, presque à la ligne finale. Lui, il était en arrière, mais chaque fois il tombait, il se relevait, il continuait. Voilà, c'est ça. Donc si tu pêches, on pêche tous d'une manière ou d'une autre. Mais ne restons pas là. Quand on pêche, cherchons notre Seigneur, relevons-nous pour que nous puissions continuer, car la route est encore longue. Et n'oublions pas que le mensonge et la vérité ne peuvent pas cohabiter. Donc c'est soit la nuit, soit le jour. Donc il n'y a pas de milieu. Et nous devons vraiment être fermes contre le péché. C'est un poison. Le péché infecte nos vies. Le péché détruit tout. Et la parole est claire à ce sujet. Il dit que celui qui pratique le péché est du diable. C'est la parole qui le dit. Et nous voulons pas être ceux du diable. Mais le Seigneur est bon. Dans Deutéronome 30, 19, il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Voilà la bonté de notre Seigneur. C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir finalement. Imaginons-nous un peu ce qu'a subi Joseph. Chez Potiphar, s'il avait accepté les avances de la femme de son maître, dans quelle position de force il allait être. Mais là, c'est dur, non. Il a préféré fuir que de céder au péché. Juste un petit exemple. Quand on roule, il y a des feux de signalisation. On sait que si tu passes au rouge, tu seras amendable. Eh bien, pourquoi on ne le fait pas? Quand c'est rouge, on vient, on s'arrête. Et une fois c'est vert, on passe. Parce que si tu passes au rouge, tu recevras des amendes. S'il y a un radar quelque part là, tu seras dans des sérieux problèmes. C'est la même chose. Tu sais que ce chemin va t'amener à pécher. Pourquoi le suivre? Il faut dire non, arrêter directement. Et ceux qui pêchent volontairement auront un jugement terrible. C'est la parole qui est dit dans Hébreux 10, 27. Il y aura un jugement terrible à ceux qui pêchent volontairement. Pour peut-être des compromis ou pour peut-être quelque chose d'éphémère. Tu sais que ce que tu es en train de faire est mal, mais tu le fais quand même. Et bien, tu auras un jugement terrible avec le Seigneur. Il y aura les conséquences qui en suivront. Car on le sait, le péché attriste l'Esprit de Dieu et nous empêche d'être en relation avec lui. On empêche l'Esprit qui est en nous d'être opérationnel. Tout cela attriste l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Et c'est ces quelques trois points-là qui peuvent nous montrer si vraiment notre état de santé est bon. Juste ces trois points-là. Il y en a beaucoup d'autres, mais commençons déjà par ces trois-là. Nous voulons avoir une bonne santé spirituelle. Nous voulons marcher avec notre Seigneur. Nous voulons aller de pas en pas avec lui. Amen. Je ne veux pas vous fatiguer. Je vais juste conclure avec un verset de 3 Jean 2 qui dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Là, c'est Jean qui s'adressait à Gaius. Mais ce matin, cette parole s'est adressée à toi. Prospère à tous égards et sois en bonne santé. Amen. Je vais prier. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire et grâce pour ta parole. Oui, Seigneur, tu nous apprends à avoir du respect pour toi, à être obéissant, à haïr le mal, à haïr le péché, à avoir de l'amour pour toi. C'est ce que nous voulons, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, transmettre cela aussi à d'autres. Viens et agis au milieu de nous, agis au milieu de nos cœurs, viens toucher le cœur, viens transformer le cœur par ton esprit. Nous voulons, Seigneur, que notre santé spirituelle puisse te convenir à toi, puisse te plaire. Oui, nous voulons faire attention, Seigneur, à ce que nous allons regarder, à ce que nous allons entendre, à ce que nous allons dire, et surtout s'accrocher à ta parole de Dieu. Sois béni, sois élevé. Nous te recommandons, Seigneur, toutes choses entre tes saintes mains, au nom de Jésus. Amen.